Avec Martin Bourboulon, bonjour.
Bonjour.
Et avec Roche Dizem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présent pour parler de 13 jours, 13 nuits, inspiré du livre éponyme de Mohamed Bida. Et donc, vous êtes d'un côté le réalisateur, de l'autre l'acteur principal. Corrigez-moi si je me trompe, mais en fait, Roche Dizem, vous lui avez soumis son rôle principal sans qu'une ligne de scénario soit encore écrite. Et il a tout de suite accepté. C'est une complicité entre vous. C'était une évidence tous les deux.
Je pense qu'il n'y a que des, il y a que des coups de cœur sur des projets et des sujets. Il se trouve que Roche Dizem et moi, on se connaissait un petit peu sans avoir encore travaillé ensemble. Roche Dizem avait travaillé avec mon père sur des films, qui était producteur de cinéma. Et je ne dirais pas qu'il a accepté. En tout cas, je lui ai fait lire le... C'est d'ailleurs parce qu'on lui a demandé de nous le dire, parce qu'il n'y avait pas de scénario. On a immédiatement pensé à Roche Dizem, on lui a proposé de lire le livre. Et c'était plus une question de se dire, est-ce que sur le principe, c'est une histoire qui te parle, qui te touche et à laquelle tu serais réceptif? Et quelque part, est-ce qu'il y aurait un accord de principe qui, moi, dans l'écriture du scénario avec Alexandre Spia, m'aiderait à avancer? S'il m'avait dit, c'est pas du tout une histoire qui me parle et je veux faire autre chose, voilà, les choses auraient été différentes à l'écriture.
Roche Dizem, vous incarnez de bout en bout le film. Bien sûr, c'est un film où il y a beaucoup de foule, mais vous avez tout de suite adhéré à ce projet, à ce personnage.
Oui. Oui, parce que on voit très vite le potentiel et du rôle et du film. Avant de lire un scénario, j'avais quand même lu le livre de Mohamed Bida. Mm-hmm. Et comme le grand public, je ne connaissais de cet événement que les images qui avaient tourné en boucle dans les rédactions, à savoir ces gens qui s'accrochaient aux avions et qui décollaient. Et donc, évidemment, on disait qu'est-ce qu'ils veulent fuir pour, à ce point, prendre autant de risques. Et découvrir cette petite histoire, finalement, que personne ne connaissait, de cette ambassade en France, avec ce commandant qui prend les choses en main et qui essaye d'exfiltrer un maximum de personnes. Je trouvais que cette petite histoire dans la grande histoire était époustouflante, passionnante, et il y avait tous les ingrédients là pour faire un bon film, un film spectaculaire, non pas dans sa mise en scène, mais spectaculaire dans les événements, et surtout rappeler aussi justement au grand public que voilà, il y a ces histoires qui se déroulent, on n'en fait pas forcément écho, mais c'est intéressant de le savoir.
Et c'est surtout magnifique de le porter sur grand écran pour qu'un plus large public puisse découvrir cette histoire incroyable, héroïque, avec Mohamed Bida qui reste très humble. J'imagine qu'en le rencontrant, après avoir lu son ouvrage, vous avez beaucoup échangé avec lui, d'une part pour préparer l'histoire, d'autre part pour préparer le rôle.
Oui, c'était une collaboration très agréable parce que Mohamed a tout de suite su quelle pourrait être sa place au conditionnel, parce qu'en réalité, il découvrait un monde qui n'était pas le sien. Et il ne s'est jamais proposé en tant que scénariste, parce que c'est un métier qu'il nous a dit qu'il ne connaissait pas. Mais il s'est mis à disposition du projet, et en sachant que c'était une adaptation. Donc par exemple, il y a une centaine de pages dans le livre qu'on n'a pas pris en compte, parce que moi, je démarre le récit au jour 1. Avant même qu'on travaille, il a fallu aussi le rencontrer et puis lui exposer la manière dont on voyait les choses, parce qu'il a fallu... d'une certaine manière aussi le convaincre, qu'il nous fasse confiance pour qu'on puisse acheter des droits ou qu'il nous les cède pour en faire le film. Donc ça a été très agréable de travailler avec lui. Et il a été, selon son expression, à dispo pour nous. Quand je dis nous, c'était surtout Alexandre Smia et moi-même pendant l'écriture, pour nous nourrir si besoin d'anecdotes, de récits, de précisions. Je me rappelle même de temps en temps avoir des WhatsApp avec lui au moment de la préparation du film, quand on cherche tous les véhicules et qu'on cherche absolument à être le plus juste. Tiens, est-ce que ce Toyota blanc, c'est ce modèle, pas ce modèle? Ah bah non, c'était plutôt ce modèle. Cette moto, tu trouves qu'elle marche? Ouais, bof. Voilà, c'était assez simple en fait. Et puis j'avais proposé à Roche Dizem de le rencontrer absolument quand il le voulait, quand il le souhaitait.
Alors, je disais, justement, cette rencontre et la préparation à ce rôle.
Alors, il y a d'abord eu ma préparation. J'avais besoin de fabriquer mon propre Mohamed Bida sans le rencontrer, afin de créer quand même un personnage aussi où on mêle aussi la fiction. Donc, une fois cette étape passée, là, effectivement, on a organisé un déjeuner avec Mohamed et j'ai pu le rencontrer. Et effectivement, la rencontre finit par étoffer tout ce procédé que vous aviez entamé. Et j'ai ajouté à cela, parce que c'est ce qui émane de lui spontanément quand on le rencontre, beaucoup de sa pudeur et son humilité. Donc voilà, mais c'était déjà un peu le ton sur lequel je me préparais à travailler sur ce personnage. Donc voilà, tout ça est venu aussi confirmer un peu la façon dont je l'élaborais.
On se dit bien que vous n'avez pas tourné en Afghanistan, ni d'ailleurs chez son voisin. Vous avez tourné au Maroc, et il y a vraiment un jeu important de la foule. C'est difficile à gérer, comme comédien, comme réalisateur. Comment avez-vous travaillé ces scènes de foule? Qui veut commencer?
En fait, je les ai pas mal travaillées en amont aussi, parce que la foule nécessite et oblige... Enfin, en tout cas, à l'inverse, je vais reprendre la phrase. Je les ai pas mal travaillées en amont parce qu'on sait que la gestion de la foule ne supporte pas l'improvisation. Il n'est pas question de dire à un moment donné, mettez les 600 figurants là. Ah non, pardon, je me suis trompé, on va plutôt les mettre derrière. C'est compliqué, c'est lourd. Les journées de tournage sont quand même tenues par un planning. On avait, somme toute, un planning assez serré malgré le budget du film qui était ambitieux et confortable. Mais justement, il fallait le tenir. Donc on a pas mal anticipé les choses avec... moi, je savais précisément où est-ce qu'elle allait être, quels étaient les mouvements de caméra. On ne se pose pas la question devant 600 figurants de savoir où est-ce qu'on va mettre la caméra, quel endroit, vraiment. Enfin, voilà. Après, on a travaillé avec des équipes formidables au Maroc, absolument formidables, que Rojdi connaissait mieux que moi. Mais moi, c'était la première fois que je travaillais au Maroc. Et j'ai adoré travailler avec toutes ces équipes qui ont une manière très, très professionnelle de mettre en scène la foule. C'est un vrai métier, ces assistants réalisateurs. Et qui l'ont fait presque au-delà de ce que j'espérais, quoi, parce que la foule a été très, très bien gérée. Les figurants étaient merveilleusement impliqués, malgré tout, des temps de tournage qui étaient très longs. Et j'y croyais, quoi, on y croyait. Donc quand tout d'un coup, on fait un grand plan large avec une grue et qu'on y croit, on est heureux, hein. Donc c'était compliqué, mais c'était plutôt fluide comme gestion. Je n'ai pas senti trop de résistance.
Une gestion, mais quand même une logistique importante. Pour vous, Roche Dizem, en tant qu'acteur, travailler avec cette foule, même si vous restez le personnage principal.
C'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée parce que souvent, on parle de débarquer sur un plateau. Là, j'ai l'impression de débarquer dans un village. Mmh. Il y avait cette figuration très importante. À chaque fois, c'était plusieurs centaines de personnes qui étaient quasiment déjà prête quand moi j'arrivais. C'est aussi le privilège d'être un acteur, c'est qu'on arrive un peu quand tout est prêt. Et ce qui était assez frappant, je trouve, c'était leur implication. Un figurant, par définition, on lui demande d'être à l'image. Là, on lui demandait de jouer. On lui demandait de jouer la peur, la révolte, la protestation. Et si vous regardez le film, vous pouvez regarder le comédien au fond à gauche, perdu dans la foule. Et là, on voit les veines qui sortent de son visage tellement il est en tension. Enfin, ils jouent tous. Et c'était quelque chose d'assez bouleversant à vivre. Et forcément, l'acteur que je suis, confronté à ça, ça vient donner un peu plus de corps à l'incarnation du personnage. Donc, c'est assez rare pour que j'en parle, parce que j'ai rarement vu une figuration aussi impliquée dans des scènes. Comme si c'était leur vie qui était en jeu. C'était beau à voir.
Ce qu'on prend en filigrane dans cette implication, j'imagine que pour vous deux, c'est la même chose, c'est qu'il y avait un devoir aussi de transmettre ce qui s'était passé, cette exploitation extraordinaire, au sens propre du terme, cet acte héroïque par ce commandant de police. J'imagine qu'il y avait toujours cet devoir de transmission qui vous animait.
Il y a un sujet qui nous oblige à une forme de respectabilité et de, moi en l'occurrence, de veiller à avoir la bonne place comme metteur en scène par rapport à un pays que je ne connais pas, qui n'est pas non plus dans mon histoire familiale ni personnelle. Et donc il fallait trouver la bonne distance, je trouve. Et donc ça passait par ne pas inventer des événements qui n'auraient pas eu lieu. Ça, c'était vraiment un point d'honneur. Une ligne rouge infranchissable, à laquelle on a d'ailleurs absolument tous adhéré, hein, que ce soit mes producteurs et Rojdi, finalement, qui étaient dès le début impliqués sur le projet. Et puis, un devoir de transmettre, comme le disait Rojdi, c'est proposer un éclairage un peu plus précis sur un pan de l'histoire très récente, française aussi, parce qu'on parle d'une opération française, qui a le nom qui s'appelle une opération Apagan, qui est une des opérations les plus complexes que la France ait jamais organisées. C'est vrai qu'il y avait une matière de cinéma qui me paraissait très évidente, très forte, sans l'intellectualiser. Hein, c'était vrai, très spontané, quoi.
Organique.
Ce livre me plaît, il est bouleversant. J'y vois un film, j'y vois déjà, je ne sais pas pourquoi, une approche de mise en scène, de ton, de grammaire. Chez moi, ça fait appel à une envie parce que je sors de 4-5 ans de travail sur des films d'époque.
Les Trois Mousquetaires.
Voilà, Eiffel, Les Trois Mousquetaires, Carême. Oui. Et l'excitation de me dire si en plus Roche Dizem pouvait faire ce personnage, sachant que j'étais avec mes camarades producteurs dans une position entre guillemets favorable à ce moment-là pour monter des projets de cette envergure-là, je dis financièrement, on s'est lancé, quoi.
Et pour vous, Roche Dizem, vous sentez aussi cette valeur de transmission, l'importance de faire connaître cet acte héroïque ?
Oui, enfin, ce que je pense rejoint un peu ce que vient de dire Martin. À ceci près que, ouais, on se sent aussi la charge de la dette, cette fameuse charge de la dette. On parle d'événements très récents qui se sont déroulés en 2021, donc c'est encore, tout ça est encore très, très frais. Et en même temps, on sait aussi quel pays on a laissé derrière. Donc, oui, il y a cette responsabilité, il y a cette dette envers cette population qui souffre encore aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on raconte d'eux ? Et c'est pour ça que j'aime aussi la mise en scène de Martin, c'est qu'elle a enlevé toute l'esbrouffe. Voilà, il n'y a pas comme tu dis si bien, la pyrotechnie, les bagarres, les poursuites de voitures, ou les effets spéciaux. Il y a quelque chose où tout est, on se polarise sur l'aspect humain et sur cette détresse humaine auquel on est confronté. Donc, s'il y a une transmission, en tout cas, elle est guidée par ça.
Je rebondis sur les propos de Rojdi. Pour justement nous faire comprendre au plus proche des personnes, enfin des Afghans, des Afghanes, mais aussi des ressortissants français, vous avez choisi l'immersion et vous avez évité la caméra sur l'épaule.
Oui, alors là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique. Il faut que je reste digeste parce que c'est un peu la cuisine. Mais en gros, effectivement, c'était l'idée de se dire on ne va pas que simplement raconter des événements, on va les vivre. Et on va les vivre dans le point de vue de ce personnage principal qui représente l'opération française. Et le principe de la caméra à l'épaule est venu un peu comme un dogme, en fait, pour s'inscrire un tout petit peu aussi, un peu en faux, par rapport à un réflexe presque un peu d'habitude de ces films que j'appellerais films de guerre dans des pays, dans ces pays-là, où depuis une vingtaine d'années, en réalité, depuis le cinéma de Catherine Bigelow, que je suis premier à avoir adoré à ce moment-là, Zero Dark Thirty et tout ça, où le Paul Greengrass avait initié un peu, avec une grammaire de cinéma un petit peu heurtée, agitée, de l'épaule, où tout d'un coup, on confondait presque un petit peu la prise de vue avec la captation. Et on dirait qu'au montage, on allait créer de la sensation de cinéma. Et que maintenant, je trouve que les plateformes ont beaucoup pris en relais. J'avais aussi une envie de me dire, voilà, nous, on va s'attaquer à ce film-là, mais ne serait-ce que dans les couleurs et dans le filmage, il faut qu'on s'inscrive en faux. Ça fait déjà 20 ans que c'est beaucoup ça. Et je ne me voyais pas être avec Rojdi à l'épaule, créer une urgence. Je préfère... Il y a une scène comme ça qui illustre parfaitement ce parti pris de metteur en scène, puisque vous me posez une question plus technique sur la mise en scène, qui est le moment au début où il va chercher son ami Sediki, qui est réfugié chez un camarade à lui, au Focaccio, qui est un des seuls endroits où on vend de l'alcool. Et c'est un plan séquence très long, mais qui n'est pas fait pour qu'on se dise c'est un plan séquence. C'est un plan fixe qui attend Rojdi, qui sort du truc, il rentre dans la voiture. Et le plan est très long, il dure près de 3 minutes. Et on a beaucoup aimé le faire d'ailleurs, le fabriquer. Parce que déjà, je pense que pour un acteur, c'est formidable à jouer, parce qu'il y a tout qui se joue là. Et c'est le moment où on voit en arrière-plan des talibans qui arrivent. Mais je vis que avec lui, mais je ne suis pas en train de faire un plan séquence, le steadicam, ou je ne sais pas. Le plan, il est assez simple. Hein. Il est en caméra, comme ça. Je suis posé avec lui. Et j'aime beaucoup la manière dont Rojdi joue, parce que c'est très dur de jouer à la fois pour nous, de jouer pour ce qui se passe derrière. On comprend et tout d'un coup, il se fait tuer, le gars. Et on voit Rojdi en premier plan. Je voulais aussi que ça soit violent, mais jamais gore. Il n'était pas question d'aller filmer en gros plan quelqu'un qui se fait exploser la cervelle. C'est beaucoup plus fort, je trouvais, d'être avec Rojdi, qui entendait le coup de feu, et de voir un homme un peu dans le flou qui tombe en se faisant tuer dans le dos, et de rester avec le personnage de... Et en plus, on avait créé au dialogue, je me rappelle, j'avais écrit avec Alexandre très rapidement une petite scène un peu sympathique pour qu'on puisse trouver ce personnage dans le peu de temps qu'il existe, un peu attachant. Il lui fait une petite blague. « Ah, tiens, la bouteille d'or, bah merci. Ouais, bah, celle-là, c'était moins cher, t'emballe pas. » Ça fait une petite joke, sachant que 3 minutes après, il allait se faire tuer dans le dos, quoi. Donc c'est symptomatique de la mise en scène que j'ai essayé de faire, quoi.
Et qui permet de mettre vraiment attention. le public qui est vraiment concerné en première pas, vraiment en premier lieu.
Je trouve que c'est un effet, il me semble, oui, c'est l'avantage d'être... quand on ne fabrique pas, mais qu'on laisse à vivre, il me semble que le ressenti du spectateur est plus fort.
Quand je disais, vous êtes aussi réalisateur, on vous avait rencontré pour Les Miens. Cette façon de procéder de Martin vous a vraiment porté dans votre rôle?
Oui, alors... moi, la façon, finalement... c'est presque anecdotique. C'est vraiment la façon dont il va me regarder et la façon dont il va me parler qui prime sur entre guillemets, mon confort. Ce qui va me permettre, en tout cas, de pouvoir transmettre des émotions. Un metteur en scène se doit de mettre un acteur dans les meilleures conditions. Donc, après qu'il utilise 12 caméras ou une seule, bon, finalement, ça, c'est sa soupe, et puis c'est le résultat après qui sera intéressant ou pas. Enfin voilà, mais ça ne me regarde pas vraiment, ça. Parce qu'en plus, derrière chaque mise en scène, il y a une longue préparation à laquelle je n'ai pas assisté. Donc, pour ça, je reste toujours très en retrait de ça, et ce n'est pas de mon ressort. Mais son regard, en l'occurrence, là, pour le coup, il a une importance capitale dans la façon et surtout l'épanouissement que je peux avoir en tant qu'acteur afin de pouvoir m'exprimer.
Alors, je crois qu'on doit bientôt vous quitter rapidement. Vous avez choisi de vraiment mettre en avant aussi une relation père-fille indirecte entre Mohamed Bida, interprété par Roche Dizem, et Lina Koudry, qui interprète une jeune afghane qui, dans l'humanitaire, qui fait aussi l'interprète. Ce choix...
Oh, c'était pas... Oui, c'est... comment dire, c'était un peu... C'est une séquence que j'aime beaucoup et que je trouve qu'ils ont très, très joliment joué, où Rojdi se dit... elle lui dit, parce qu'il se livre assez peu, et elle lui demande s'il a des enfants. Elle lui dit qu'il a une fille, qui a ton âge, ça pourrait être toi, quoi. Et ça s'est fait un peu naturellement. On ne s'est pas dit, tiens, on va créer en double lecture cette relation. Elle est très belle, la relation qu'il y a entre eux deux, je trouve. Elle est très simple, très naturelle, et elle ne pouvait pas se jouer sur un autre plan que cette relation père-fille. C'est évident qu'il n'y allait pas avoir de séduction, ça n'allait pas se passer ailleurs. Et voilà, mais ça c'est... Enfin, j'ai envie de vous dire, j'ai presque pas... En m'en rendant compte après, quoi, il n'y avait pas de...
Et votre échange avec Lina Koudry, quand je disais
Lina, on s'était croisés... sur un autre projet, mais on n'est pas de séquence ensemble, sur Les Sauvages. Et ouais, moi, j'aime cette façon qu'elle a d'aborder les scènes avec un grand naturel. On sent quand même... tout est facile pour elle, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne. Et se mettre en condition et en renvoyer quelque chose de très fort, ouais. Moi, j'aime bien ces acteurs où je peux me reposer sur eux. Parce que ce qui me renvoie... déclenche chez moi une émotion dont je vais pouvoir me servir. Et elle fait partie de ces acteurs-là. Alors, ce qui est un peu, agaçant pour l'autre, et en l'occurrence pour moi, c'est de voir cette facilité qu'elle a à arriver.
C'est déconcertant, j'imagine.
C'est déconcertant, quoi. Et en plus, on sent que la caméra l'aime, ce qui est un véritable avantage aussi.
Alors, malheureusement, on doit vous quitter tous les deux, Rojdi, Martin. Le film sort le 27 juin. Vous étiez déjà à Cannes, au festival cette année. 27 juin, bon succès pour ce film. Jour de votre anniversaire, Martin.
Ah ouais.
Vous avez fait exprès.
J'ai fait absolument exprès. J'ai tourné même pour que ça sorte le 27 juin, qu'on soit prêt à l'heure.
On ne doit pas souhaiter l'anniversaire à l'avance, mais bon succès au film. Merci à vous deux.
Merci beaucoup. Merci.
Merci.
Comment elle s'appelle ?